Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Ésaïe 60, je lis à partir du verset 1. Il est dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. » Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer, tu es avec moi, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Est-ce que c'est une parole de Dieu? C'est Dieu qui parle. Dieu dit, les nations vont marcher à ta lumière. Quelle est la lumière que nous portons? La lumière de Dieu. La lumière de la sagesse, l'amour, la considération de la valeur humaine. Dieu qui s'est investi pour sauver les hommes. Voici la lumière que nous portons. Mais les nations ne marchent pas à notre lumière. Les nations marchent à la lumière diabolique de l'intérêt matériel, financier, d'une gloire qui est vaine. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et à quel moment les nations marcheront-ils à notre lumière? Lorsque les richesses de la mer, c'est quoi les richesses de la mer? Les poissons, c'est quoi les richesses de la mer? Le pétrole, il dit, se tourneront vers toi. Ça veut dire quoi? Que dans l'historique prophétique biblique, les richesses de la terre ne sont pas d'abord tournées d'abord vers les fils de lumière. Mais quelque chose va se passer qui va amener les richesses de la mer, les richesses de la terre à se tourner vers les fils de Dieu. Et avec ça maintenant, les fils de Dieu vont pouvoir éclairer le monde. C'est ce qu'il explique. Il dit, verset 5, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Virgule. Quand les trésors des nations, dis avec moi les trésors des nations, viendront à toi. Amen. Donc les nations aussi vont, leurs trésors, leurs richesses viendront à toi. Ce n'est pas Pasteur Sanogo qui l'a inventé, c'est la Bible. Si toute la Bible est la parole de Dieu, c'est que là aussi c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Les richesses des nations doivent venir dans la main des fils du royaume. Alléluia. Tu seras couverte d'une foule de chameaux de dromadaires. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajon seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et ils me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. À cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Et leur roi avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Amen. Vous pouvez continuer à lire tout le chapitre. C'est très puissant cette prophétie. Alléluia. Et quand vous continuez ainsi, même jusqu'au chapitre 61, vous voyez encore ces choses. Donc voilà ce que la Bible annonce. Amen. Si la Bible dit dans cette prophétie que les païens vont reconnaître ton Dieu, ça veut dire qu'ils existent. C'est pas ça? Certains pensent que cette prophétie-là, c'est la fin du monde. Mais si c'est la fin du monde, qu'on est tous au paradis, où seront ces païens qui vont venir avec leurs chameaux, leur or pour te donner? S'ils existent encore, ça veut dire que c'est pas lorsqu'on sera au paradis, nous serons avec Dieu et les autres seront en enfer. Amen. Cette prophétie-là va avoir son plein accomplissement dans ce qu'on appelle le millénium, les mille ans. Amen. Mais bref, mais avant cela, elle doit s'accomplir. Parce que quand vous continuez dans la suite du passage, il est montré que l'Église, ou bien les croyants, de par cette prophétie, vont aider l'humanité au travers de cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Ok. Mais que se passe-t-il alors? Comment cela se fera-t-il? D'où, qu'est-ce qui va se passer pour que nous ayons ce transfert? Pour que nous partions prendre possession de ce qui appartient à notre Créateur. Et que nous puissions, avec la sagesse divine en nous, pouvoir aider véritablement l'humanité. Amen. Pour que cela se fasse, il y a plusieurs attitudes. Et le séminaire, ou bien ce que nous sommes en train d'étudier en ce moment, c'est cette vertu-là qu'on appelle la fidélité. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Et je vous ai dit la dernière fois que la fidélité est une des vertus qui fait défaut aux chrétiens et à l'Église. Je rappelle le passage que j'avais lu il y a 2 semaines, Proverbes chapitre 20, le verset 6. Dites avec moi, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ok. Qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer? Il dit que sur la terre, il y a beaucoup de personnes qui sont bien, beaucoup de personnes qui sont bonnes. Mais ce que Dieu cherche, c'est la fidélité. Amen, amen, amen. Si je demande ici, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui aide les plus faibles? Moi. Beaucoup parmi nous sont tellement altruistes, ils pensent aux autres. C'est glorieux que Dieu te bénisse. Ce que tu fais, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'il se produise la prophétie d'Ésaïe, chapitre 60. La bonté est une chose. Et la Bible dit, il y a beaucoup de personnes bonnes. Et vous allez en trouver dans la maison de Dieu, même dans ceux qui ne sont même pas dans la maison de Dieu. Mais la véritable bonté se trouve en Christ. La véritable bonté. Mais la bonté n'ouvre pas toutes les portes. La justice de Dieu. La justice de Dieu dont je parle. La bonté, la fidélité, l'amour font partie de la justice de Dieu. La justice de Dieu a plusieurs bases. Et une de ces bases que les chrétiens ignorent ou que les chrétiens méprisent ou ne comprennent pas, c'est la notion de la fidélité. C'est une chose qui est assez bizarre parce que elle te donne une attitude de persévérance, d'attachement à des principes, à des personnes et à des choses, quelquefois en dépit de leur attitude, de leur comportement. Et c'est la raison pour laquelle nous n'aimons pas la fidélité. La fidélité, je rappelle ce que ça signifie. Ça signifie simplement, c'est un attachement à une chose ou à une personne. N'est-ce pas? Quelles que soient les épreuves. La fidélité, c'est aussi l'honnêteté. La fidélité, amen, qu'on a traduit aussi dans la fidélité dans les moindres choses, amen, c'est... l'attachement, c'est le fait d'utiliser chaque chose que Dieu nous donne selon ce pourquoi la chose là a été faite. Ce pourquoi elle a été faite. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens sont excellents, mais il n'y a pas beaucoup de personnes fidèles. Or, sans la fidélité, tu ne peux pas obtenir des choses plus grandes. Deux éléments permettent d'obtenir des choses plus grandes. Il y a l'ordre et l'organisation, et il y a aussi la fidélité. Et je vous ai dit ceci, il y a 2 dimanches que tout le monde dit ouvertement comme ça, est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? On peut dire oui. Mais en fait, c'est pas vrai quand les gens le prononcent. La fidélité n'est vérifiable, n'est attestable qu'après l'épreuve. Je ne peux pas dire que je suis fidèle avant d'avoir été éprouvé ou avant que ma fidélité ait été éprouvée. Très simple. Même les autres commandements comme l'amour. Je ne comprends pas pourquoi Dieu voulait que je commence par l'enseignement sur la fidélité. Il dit, mais tu veux commencer. L'amour est le premier commandement et le plus important de tous les commandements. Mais pour qu'une personne applique l'amour, là, il faut qu'elle me soit fidèle. Ça veut dire quoi? Qu'elle me suive fidèlement. Si tu n'as pas décidé d'être fidèle à Dieu, quand Dieu te demandera, quand Dieu te dit, fais du bien à celui qui te fait le mal. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu ne vas pas obéir à ce commandement. Tu me dis, mais pasteur, comment? Est-ce que tu es un bon chrétien, non? Oui. Tu proclames ta bonté? Oui. Dieu dit, fais le bien à ton ennemi. Rappelle-toi, la dernière fois, la voisine du quartier, ou bien, qui t'a injurié, qui t'a critiqué, tu t'es levé. Tu dis, non, c'est vrai qu'on est un Christ, hein? Mais je vais lui dire 4 mots. Parce qu'il ne faut pas laisser les choses se faire. Pasteur, non. Parce que dans ce monde-là, bon, ok. Mais quand tu te comportes comme ça, est-ce que tu es fidèle? Non. Tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu. Tu as dit dans ta prière de conversion, Seigneur, je vais te suivre, je suivrai ta parole. Maintenant, il te dit, fais le bien à tes ennemis. Toi, tu estimes que, face à cette parole-là, tu ne fais le bien à tes ennemis que lorsque ça t'a... Non, même pas tes ennemis. Tu fais le bien à tes amis, tes ennemis... Si tu as fait trop d'efforts, c'est que tu ne leur rends pas le mal, mais tu restes calme. C'est pas ce que la parole dit. La parole dit de faire du bien. Beaucoup de gens proclament leur bonté, oui. Beaucoup de gens disent qu'ils prient, oui. Mais combien de gens sont fidèles? Et c'est quoi la fidélité dans ce sens-là? Comment on peut voir que tu es fidèle à la parole de Dieu? C'est lorsque, effectivement, quelqu'un va venir te provoquer. Tu disais dans ta bouche, je suis fidèle à l'église, vase d'honneur. Je suis un fidèle de vase d'honneur. Vase d'honneur dit la Bible. Ton voisin vient, tu apprends que ta meilleure amie, que tu croyais être ta meilleure amie, t'a critiqué, t'a vendu. Donc elle est devenue ton ennemi. Alors, si tu es fidèle à Dieu, tu te comportes comme Dieu se serait comporté. Et tu regardes les Écritures pour chercher dans la Bible, on dit, si tu rencontres ton ennemi, il faut lui faire du bien. On n'a même pas dit, on ne te dit pas de rester indifférent. On dit le bien. Ça veut dire quoi? Pendant que tu apprends que ta meilleure amie est en train de te faire du mal, toi tu réfléchis à l'eau sur le marché, quel cadeau tu vas lui offrir? On dit, mais pourquoi tu vas au magasin? Je vais acheter ce beau sac. Pour qui? Pour la sœur tant. Pourquoi? Mais j'ai appris qu'elle est contre moi. Je veux lui offrir un sac. Oh, hein, tu vas au magasin. Et regardez cette montre-là. Elle sera belle sur la main de... Donnez-moi un nom. Hein? Suzanne. Non, pas Suzanne, il y a trop de... Il y a des Suzanne ici. Hein? Bon, je donne un nom qui n'existe pas. Gasparette. On reste toujours dans le cadre de Gaspard. Gasparette te fait le mal. Gasparette est contre toi. Et puis tu vas... au supermarché. Quand tu arrives au magasin, tu vois une belle montre. Oh, cette montre-là, elle serait belle sur la main de Gasparette. Les gens qui sont autour de toi sont étonnés. Mais on vient de t'informer que Gasparette te plante un poignard dans le dos. C'est en ce moment-là, toi, tu es en train de réfléchir à lui faire le bien. Vous savez, les chrétiens sont fidèles dans le sens que nous, on lutte pour essayer même de pardonner à Gasparette. Dieu ne va pas. Il dit, non seulement tu pardonnes, mais tu poursuis la personne pour lui faire du bien. Parce que faire le bien et puis ne rien faire, c'est deux choses différentes. Hein. Quelqu'un qui passe dans la rue, il t'a rien dit. Il t'a pas fait le mal. Il t'a pas fait aussi le bien. On dit, fais du bien. Ça veut dire, réfléchis à une bonne chose et fais ça pour ton ennemi. Est-ce qu'on est fidèle? Voilà, donc c'est ce que l'Écriture dit. Beaucoup de personnes proclament leur bonté. Mais la fidélité se voit. C'est très facile d'offrir une montre à Gasparette quand Gasparette est bien. C'est quand Gasparette devient bizarre. Pourras-tu continuer à lui offrir la montre? C'est là qu'on parle de fidélité. La fidélité ne se voit qu'après l'épreuve. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi. Et nous battons pas pour la fidélité. La Bible dit... Cherchez premièrement le royaume et sa justice. La fidélité fait partie de la justice de Dieu. C'est-à-dire, Ce sont des choses pour lesquelles on doit faire des efforts. On doit travailler sur nous-mêmes pour rechercher ces valeurs. Mais nous ne les recherchons pas en priorité. Ce n'est pas pour nous prioritaire. Nous recherchons l'argent prioritairement. Dieu dit non. Ce que tu dois chercher premièrement, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire que Dieu règne sur ta vie, que tu lui appartiennes. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et sa justice. Sa justice, c'est la façon dont Dieu raisonne. C'est la manière dont Dieu juge les problèmes. Jésus enseignait deux choses, le royaume et sa justice. Sa justice, c'est ce qu'il dit. Fais du bien à ton ennemi. Si quelqu'un te frappe une joue, tends-lui l'autre joue. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice des hommes dit, si on te frappe une joue, légitime défense, tu peux agresser. Ça, c'est la justice de la terre. On t'a pas dit de chercher la justice, cette justice. On dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Dis avec moi, mais c'est facile. Si tu crois que c'est facile, ça va se faire. Moi, j'ai été confronté à ça. Je devais faire simplement un atout. Juste embrasser comme ça quelqu'un qui parlait très mal de moi. Il fallait me concentrer. Père, aide-moi. Moi, je t'assure que la première fois, tu ne fais pas ça avec joie. Hein. Tu vas prendre la montre, le cadeau que tu dois faire. Mais Seigneur, tu dis d'être fidèle. Allez lui acheter une montre. Seigneur, tu as entendu ce qu'elle a dit. Eh hey, Jésus, c'est à cause de toi. Hein? Bon, je vais prendre la vilaine montre là. Montre de 1000 francs sur la route. J'ai dit non. Va dans ce magasin. Père, tu sais à qui tu veux donner la montre là? C'est mon ennemi même. Dieu dit, je t'ai dit, fais du bien. Au départ, ça sera difficile. Mais c'est ça, chercher premièrement. Pierre dit ceci, faites tous vos efforts, alléluia, pour joindre à votre foi la vertu. Ça veut dire, quand on dit de faire tous tes efforts, il y a des fois, ce n'est pas facile. Mais tu as décidé que la première chose que tu cherchais, c'est la justice de Dieu. Dieu dit, quand tu agis de la sorte, tout ce dont tu as besoin te sera donné. Quelqu'un est-il avec moi, avec moi? Est-ce qu'on a des fidèles? Vous êtes fidèles, soyez fidèles. Amen. Alléluia. Alors, on avait donc étudié donc que la fidélité est vaste. Mais il y a trois domaines d'action de la fidélité. Selon ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 16, Dieu dit ceci. Et ces trois bases de la fidélité, il y a deux dimanches, on a étudié la première base. Mais ces trois canaux, ces trois actions de la fidélité. Et Dieu explique que ces différentes formes de fidélité, c'est tous la fidélité, mais ces différentes formes de fidélité produisent certains résultats. La première fidélité qu'on a étudiée, il dit, dis avec moi, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans la vie, tu veux avoir de grandes choses. Tu veux avoir une plus grande responsabilité. Tu veux avoir une plus grande influence, un plus grand impact. Tout ce que tu veux de grand, Dieu dit, avant cela, applique la fidélité dans les moindres choses ou dans certaines versions, les petites choses. Il y a des grandes choses, mes amis, que le diable donne. Mais elles ne vous apporteront pas la paix, elles ne vous apporteront pas le bonheur. Ce sont des richesses futiles. Des hommes se sont enrichis de la sorte, ils sont morts péniblement, perdant leur foyer, leurs enfants, leur maison. Ils ont vendu leur âme pour avoir des grandes choses sur la terre. Mais moi, je vous parle de la richesse véritable. Dieu dit, cette richesse et cette élévation, elle vient de Dieu seulement. Et Dieu a une règle, c'est que avant de te donner ce qui est grand, il te donne d'abord des choses petites. Et il regarde ton attitude. S'il trouve la fidélité dans les petites choses, alors il te donne encore plus grand. Dieu évolue toujours de manière progressive. Mon frère, si tu ne sais pas gérer, tu n'es pas rigoureux avec 1000 francs, CFA, Dieu ne va pas te donner 1 million. Si tu pries pour avoir 1 million pour monter un projet, la question, ce que toi tu te demandais, c'est est-ce que quand Dieu m'a donné 2000 francs, j'ai été fidèle? D'ailleurs même, de 1000 francs, tu vas te faire passer peut-être une gestion de 100 000 francs. Et il va remarquer si tu es fidèle. Si tu es fidèle dans la dîme. Si tu respectes tes engagements. L'argent vient pour... tu as pris de l'argent de côté. Tu as mis ton argent, tu dis, bon voilà, il y a tel montant qui est destiné à amener la nourriture à la maison. Tu deviens infidèle quand l'argent que tu as décidé pour tes enfants, tu le prends et tu vas le donner à une personne. Sous prétexte, l'argent pour vêtir tes enfants, tu vas le donner à une personne sous prétexte que ils ont des problèmes au village et que mon fils, on verra. C'est de l'infidélité. Parce que les 5000 francs, là, tu les avais destinés à quelque chose. La fidélité, c'est respecter ses engagements. Amen. Amen. Alors, Dieu estime que même si tu as fait de bonnes choses avec ton argent, tu n'as pas été fidèle. Comprenez, non? La fidélité dans les moindres choses, ce n'est pas être bon avec les moindres choses. Ce n'est pas cela seulement. Il y a être bien avec les moindres choses, mais il y a l'attitude de respecter ce qu'on s'est dit, ce qu'on a décidé avec les petites choses. Tu dis, cet argent, Seigneur, voilà, tu m'as donné 100 000 francs. J'enlève 10 000 francs pour ma dîme. Je réserve 30 000 francs. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais je réserve 30 000 francs pour ma popote du mois. Sois fidèle. Respecte ce que tu as dit. Si tu prends les 30 000 francs pour aller faire même une autre bonne chose, si tu es infidèle. Dieu estime que le juif va te donner 30 millions. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire que cet argent-là est là pour construire une nouvelle annexe de ton entreprise. Mais quand tu vas mettre de côté 30 millions pour ton entreprise, un vent subit d'urgence va souffler vers toi. Et de la même manière que tu étais léger avec les 20 000 francs que tu orientais pour la popote, tu jouais comme ça avec cela, tu seras léger avec tes 20 millions que Dieu avait pris pour développer l'entreprise. Et tu vas les prendre pour les investir parce qu'un monsieur passait par là, il t'a proposé un projet qui n'a ni tête ni queue. On vient te blaguer là. Tu avais pris 200 000 francs. Tu avais mis 1 million pour payer tes employés, ceux qui travaillent avec toi. Et quelqu'un vient, non, j'ai eu une affaire en or. On dit, c'est quoi mon frère? Tu donnes 1 million dans un mois, ça fait 10 millions. Maintenant tu calcules. Il dit, avec 10 millions, tu payes en même temps tous tes employés, non? Donc tu commences à faire un calcul comme ça. Seigneur, je veux payer les employés, mais voici le doc. Toi-même, tu appelles Jésus pour l'informer. Viens. Est-ce que Seigneur, tu es au courant de l'affaire? Ça marche. Dieu dit, comment tu es sûr? Il dit, oh Dieu, je t'ai dit, ça fonctionne, mon Jésus. Ça fonctionne. Je connais un frère. Il a mis son argent dans cette affaire. 1 million. Voilà, aujourd'hui, il a 4 voitures. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends 1 million qui était destiné pour payer mes employés, qui était destiné pour payer ma nounou à la maison, pour payer mes charges. Je les prends et je vais mettre dans une autre affaire. Infidèle. Dieu dit, quand je te donne de grandes choses, un matin, tu vas t'élever une boîte de milliards, tu vas prendre l'argent et puis aller mettre, il suffit sur un coup de tête, quelqu'un apparaît brusquement pour te proposer une affaire qui te paraît alléchante. La fidélité, c'est la capacité à rester droit, attaché à ce qu'on a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, c'est la clé divine pour recevoir des grandes choses. Dis, Seigneur, aide-moi. Eh, mes amis, il y en a qui sont tombés là-dedans. Moi, on m'en parle pas, moi-même. J'ai fait trop d'accidents. Non, les amis, je pensais que j'étais fidèle. Mais j'ai vu l'infidélité dans ma vie quand j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, waouh. Les petites choses, c'est quoi? C'est le premier aspect de la fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu vas avoir les grandes. Dieu veut nous donner les richesses du monde. Mais l'église n'est pas dans le processus de croissance. Parce que elle dit ceci, elle fait cela. Elle dit, allez à droite, elle-même, elle va à gauche. Parce qu'il y a eu une bonne chose qui est venue. Non, la bonté et la fidélité sont deux choses différentes. La fidélité, regardez Jésus par rapport à sa fidélité. Jésus envoie les disciples. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle dans les villes. Et j'aime ce passage. Il dit ceci, sur le chemin, tous ceux qui vous ne saluez personne. Vous connaissez le passage, non? Est-ce que c'est bien? Si quelqu'un vient te dire bonjour, quand même. Jésus dit, en chemin, vous partez dans telle ville pour annoncer la bonne nouvelle, ne saluez personne en chemin. Donc le gars devait marcher. Si son camarade, qu'il a connu il y a 50 ans, arrive, frère, il ne devait pas lui parler. je m'en vais en mission. Il devait arriver là-bas. En fait, Jésus a donné ce passage pour expliquer ceci. C'est ça la notion de la fidélité. Il explique que quand tu as choisi, quand tu as décidé une destination, que rien, même les choses banales de la vie, comme dire simplement bonjour, s'il te plaît, que cela ne t'arrête pas. Sinon, tu n'accompliras pas ta mission. La fidélité, c'est cette capacité. Il y a des épreuves qui arrivent dans le sens du péché auquel vous dites non. Mais il y a d'autres tentations qui arrivent dans le sens de bonnes choses qu'on vous présente. Mais qui n'étaient pas dans votre programme. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'a pas programmé. Tu t'as assis avec Dieu, tu vous avez prié. Vous avez défini le but de l'argent. Après, tu sors, on te propose de bonnes choses à faire. Sois fidèle. C'est pour ça qu'on a ici, les gens ont tous les problèmes. Depuis là, on est dans la galère. Si c'est pour être les gens bons là, oh, frère, il y en a aussi des prieurs, des jeûneurs, des veilleurs. On a enchaîné les veillées. Je prie. Depuis là, je suis au sommet. Je ne suis pas à la queue. Je vais au sommet. Je vais au sommet. Je vais au sommet. On dit, le sommet là, ce sont les grandes choses. Si tu n'es pas fidèle en bas de la montagne, tu ne monteras pas sur la montagne. Donc, si tu as prié pour aller au sommet, lis ta Bible, elle te dit quoi? Sois fidèle dans les petites choses. Je te donne les grandes. Comment vous voulez que Dieu désobéisse à sa parole lui-même? En donnant de grandes choses à ceux qui sont infidèles dans les petites choses. Les petites choses, c'est le premier aspect de la fidélité. C'est tout ce que Dieu a mis à votre disposition. Et je vous ai expliqué dimanche dernier que c'est la façon dont vous les considérez. La manière dont vous les traitez. Même une chemise que Dieu te donne, il faut savoir bénir son nom. Même si c'est ta première chemise, la seule chemise qu'on t'a donnée, c'est trouée. Bénis Dieu. Et on avait lu dans Matthieu chapitre 25, le serviteur qui avait reçu un talent, il a méprisé le talent, il l'a enfoui sous le sol. Quand Jésus est venu, voici la phrase qu'il a prononcée. On avait lu ça deux dimanches, il a dit, serviteur infidèle. Et il a appelé les autres qui avaient développé leur talent, il les a appelés fidèles serviteurs. Donc la fidélité, c'est aussi la fidélité dans les petites choses, c'est la capacité à considérer, à donner de la valeur à tout ce que Dieu vous a donné, quitte à ce que ces choses-là même soient la plus petite ou même insignifiante par rapport à beaucoup d'autres. Il y a un qui avait un talent. Dieu dit, pourquoi tu n'as pas considéré cela? Mes amis, retenez cela. Oh, je l'ai dit la dernière fois. Tu n'as pas de maison, tu dors dans une maison où il n'y a même pas de porte, de clé pour fermer. Respecte ta maison. Bénis-la, nettoie-la. Sois fidèle. Amen. Deuxième aspect de la fidélité, je vais introduire aujourd'hui, je terminerai plus tard. Maintenant, c'est cette fidélité-là qui entraîne le transfert des richesses. Mon ami, tu as une vision. Ta vision doit être financée. Ok? Dieu veut changer le monde avec toi. Il va prendre les trésors, les ressources qu'il a déposées dans le sol, dans la terre, dans les nations pour te les amener. Mais, comme je t'ai dit, il faut comprendre, il faut saisir que tu vas très loin. Que ton destin ne s'arrête pas aux choses que tu as pu toucher aujourd'hui. Ton destin est non seulement toi-même d'être épanoui, mais de favoriser et d'être utile à la vie de plusieurs sur dans le monde. Car la Bible dit, nous sommes la lumière des nations, pas la lumière de quatre personnes. On dit les nations. Vrai ou faux? Pourquoi toi tu vois quatre personnes seulement dans ta tête? À la limite, tu vois plus ton village. Est-ce que ton village, ce sont les nations? Ton village, à la limite, c'est une nation. Arrête de penser village. Pense nation, nation. Amen. Il y en a qui pensent que c'est humble. Quand ils disent, moi, toutes les nations, Seigneur, ça m'inquiète. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je te demande, c'est mon tout petit village. Dieu dit, les nations doivent t'intéresser. Mais commence par ton village. Le village n'est que le début. Les nations sont dans un arrière-plan de ton esprit. Ce n'est pas la priorité pour le moment. La priorité, c'est la fidélité dans ce que tu possèdes. Mais cette fidélité-là va t'entraîner loin. Maintenant, le deuxième bloc de fidélité, c'est celui-là. Luc chapitre 16, verset 10 maintenant. Il dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Verset 11 maintenant. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Ok, ça c'est un deuxième bloc de fidélité. Le premier bloc, ça veut dire la fidélité dans les petites choses, dans les paroles que je donne. Quand je l'ai expliqué la dernière fois, que votre oui soit oui, apprenez à être fidèle à vos paroles. Apprenez à ne pas donc parler vainement. Parce que le diable a pour principe de tout créer sur la base d'une parole, mais la parole du mensonge. Dieu crée tout à partir de la parole de vérité. Au commencement était la parole. Tout ce qui existe a été fait par la parole. Même pour construire ton entreprise, pour construire ta maison, Dieu doit parler. C'est la parole de Dieu qui crée tout. Tandis que la Bible appelle Satan dans Jean chapitre 8, le père du mensonge. Satan entre dans tes affaires par les non-dits, les mensonges, les contre-vérités. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Être fidèle, c'est savoir honorer ses paroles. Donc, apprenez chaque jour à ne jamais dire oui précipitamment à des rendez-vous. Dis peut-être. Comme tu sais que tu n'es pas trop fort pour respecter toutes tes paroles. Donc arrête de dire, on te parle d'un programme. Je te promets, demain, je suis là. Tu ne me fais pas confiance. Je dis demain, j'arrive. Maintenant, demain, tu te lèves. Ton cousin vient te visiter. Et puis, ça ne te dit rien de ne pas respecter cette parole. Vraiment, banalement comme ça. Après, maintenant, le gars t'appelle, mais tu m'as promis que tu allais venir, non? Tu dis, ouais, je voulais venir, mais mon cousin est arrivé à 7 heures. Infidèle. Voilà, c'est pourquoi quand vous parlez, sachez utiliser les bons mots. De sorte que vous n'êtes pas infidèle si vous devez rectifier ce que vous avez fait. Donc, peut-être je viendrai. Je ferai l'effort de éviter de promettre rapidement. Apprenez d'abord à respecter les peut-être. Je ferai l'effort. Si vous avez déjà respecté les peut-être, je ferai l'effort de faire ceci. Je ne te promets pas, mais je ferai tous mes efforts pour atteindre cela. Si par mégarde vous avez failli, au moins, votre oui n'est pas oui. Votre oui ne devient pas non et votre non ne devient pas oui. Okay? Et au fur et à mesure, vous allez apprendre à développer. Donc, la croissance dans cette fidélité vient de ce que vous commencez petit pour les tout petits engagements. Commencez à déjà à faire l'effort de les honorer. Vous allez voir que les plus grands viendront par la suite. Amen. Et puis maintenant, on va terminer avec ceci. Les richesses injustes et les richesses véritables. Alors, de quoi je vous parlais en introduction avec Ésaïe chapitre 60, que les richesses des nations vont venir chez les serviteurs de Dieu. La richesse injuste dont il est question en ce passage de Luc chapitre 16 verset 11 peut être aussi traduite par richesse illégitime. Ça veut dire, ce dont je vous parlais tantôt, la richesse que ceux qui ne vénèrent pas le créateur, le possesseur, le propriétaire des richesses, les richesses dont ils jouissent là. Ce n'est pas normal, c'est injuste. Est-ce qu'on me comprend? C'est injuste. Pourquoi? Parce que les fils sont les héritiers légitimes du Père. Donc, si tu veux en jouir, si tu veux prendre le pétrole, si tu veux prendre l'or, sois un héritier. Donc, convertis-toi. Si tu n'es pas converti, c'est injuste. Ce n'est pas juste que tu aies cette richesse. C'est pas vrai? La preuve, c'est que lorsque ces personnes les possèdent, on arrive dans les situations internationales que nous connaissons de nos jours. Alléluia. Mais le Seigneur dit ceci. Si tu veux avoir la richesse véritable, il faut d'abord que toi-même, tu aies été fidèle dans les richesses injustes. Et c'est là le problème. Beaucoup de chrétiens attendent, ils vont aller veiller pour prier. C'est très bien. Mais on croit simplement que c'est parce qu'on prie que la banque va regarder ton visage quand tu vas arriver. Banquier. Ça fait 4 jours, je suis devant la face de Dieu. J'ai une croisade à Bondoukou. Cette croisade coûte 400 millions. Au nom de Jésus, donne, car c'est la richesse de mon Père. On va te frapper, on va prendre les gardiens, les vigiles, on va te jeter dehors à la rue. On va dire un fou. Donc, les richesses, la Bible est simple, les richesses gérées injustement là, ne vont pas venir chez les croyants parce qu'on va là-bas avec des paroles de fils au nom de Jésus. Non. Elles ne viendront que lorsque nous aurions été fidèles aux richesses injustes. Ça paraît bizarre le passage, mais la Bible dit, Luc 16, 11, regardons bien. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, la véritable richesse, la richesse légitime, ne peut être donnée qu'après que toi, tu aies été fidèle dans une richesse illégitime. C'est ce qui nous embête. C'est pourquoi beaucoup restent pauvres. On ne peut pas accepter ça. Mais fidèle dans les richesses injustes, je n'ai pas inventé le verset, hein. On a lu ensemble, c'est un français clair. Amen. Mais fidèle dans les richesses injustes, ça ne veut pas dire fidèle à l'injustice. Tu es fidèle d'abord à tes principes, ton principe de foi. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Ok. Je lis à partir du verset 14. On va aller vite. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Regardez bien le verset 17. J'aime ce passage de l'église de l'Odyssée, mes frères, tout simplement. Parce qu'il est question ici de chrétiens. L'église de l'Odyssée était constituée de chrétiens. Donc des gens comme vous et comme moi. Mais ils avaient un problème. Il est dit, verset 17, parce que tu dis je suis riche. Mes amis, l'église de l'Odyssée était comment? Riche. Ça veut dire peut-être qu'il y avait des personnes, des milliardaires dans leur... En tout cas, ils avaient de l'argent matériel. Il dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Virgule. Et parce que tu ne sais pas que tu es comment? Malheureux. Misérable. Quoi? Donc, l'église là est riche, mais elle est pauvre. Tu ne sais pas que tu es riche, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi. Quoi? De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes. Donc, dans cette histoire, il y a deux richesses. Il y a une richesse que ces chrétiens-là se sont amassés. Dieu dit, vous êtes pauvres. Il y a une autre richesse qui est, parce que Dieu ne veut pas qu'il n'ait plus rien. Parce qu'il faut ces fonds-là pour soutenir l'œuvre. Il dit donc, malgré ta richesse, tu as beaucoup d'argent, je ne sais pas comment, mais tu es pauvre. Tu es misérable, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de chez moi de l'or éprouvé par le feu et un collier pour un de tes yeux afin que tu vois et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Dans ce passage, il est question ici de deux richesses. Des richesses injustes, des richesses vaines qui vont disparaître avec le temps, qui sont des fondements sur la gloire du monde. Donc c'est une église qui a construit de gros temples. Ils sont fiers, ils ont des milliards dans leur compte en banque. Dieu dit, ils sont pauvres, parce qu'ils ne connaissent pas le sens de la véritable richesse dont je parlais tout à l'heure. Et il dit, mais la véritable richesse vient comment? Je vais te donner de l'or, pas n'importe quel or, de l'or éprouvé. Ça veut dire, la richesse de Dieu est une richesse qui vient après une certaine expérience. Dieu, tu vas jamais prier. Et puis subitement au ciel, l'argent va tomber dans ta chambre comme ça. Bah, mon fils, tiens des milliards, va faire mon œuvre. Alléluia, va faire mon œuvre. Le petit élève le matin, pasteur, hier nuit je priais. Un homme s'est réveillé aux États-Unis. Il est venu, il m'a apporté un milliard. Je n'ai rien dit. J'étais chez moi en prière et on m'a appelé au téléphone. On dit, tu es l'héritier d'une fortune. Il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs comme ça sur Internet. Il y a des chrétiens qui sont tombés là-dedans. Oh, mes amis, Dieu, on dit, tu es l'héritier que... Il y a un jeune héritier, quoi. Il ne sait pas comment prendre son argent. On veut te mettre là-dedans. La richesse de Dieu vient après l'épreuve, vient après... Moi, c'est pas le mot, je ne veux pas que vous voyez le mot souffrance, mais le mot exercice, le mot apprendre. Et puis, il va dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, un colis pour un de tes yeux. Ça veut dire, il faut que tu comprennes. Ouvrir les yeux, c'est comprendre. C'est avoir l'intelligence. Donc, la richesse de Dieu, elle produit à la fin de l'or, de l'argent, mais elle est d'abord basée sur la sagesse qui est née d'une expérience. Il y a la sagesse qui vous est révélée. Ça veut dire que Dieu te donne de comprendre certaines choses. Mais il y a, à force d'apprendre, Dieu te donne une richesse qui n'est pas de ce monde. Une révélation spéciale. Vous allez me comprendre tout de suite. Alléluia. Alléluia. Alors, on a quelques exemples dans la parole de Dieu. On a l'exemple de Joseph. Joseph est chez son père. Tout le monde adore Dieu là-bas. Mais Dieu veut qu'il sauve l'humanité d'une grande famine qui s'apprête à venir. Comme nous, nous avons cela comme mission, nourrir ceux qui n'ont pas à manger. Amen. Dieu va amener Joseph en Égypte. Qu'est-ce qu'il va appeler, il va amener Joseph à devenir premier ministre d'Égypte? C'est l'interprétation qu'il a fait du songe de Pharaon. Hein? Mais l'interprétation qu'il a fait du songe de Pharaon n'allait pas le positionner premier ministre. Est-ce que vous me suivez? Quand il a donné l'explication du songe mystérieux à Pharaon, à la limite, Pharaon l'aurait délivré de la prison et lui aurait donné peut-être un poste de conseiller spirituel. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que mes amis, la manière dont vous développez votre vie chrétienne là, aujourd'hui là, si vous continuez comme ça, la meilleure chose que vous pouvez avoir, c'est conseiller spirituel des présidents. Je vous assure, hein, la manière on prie, on veille, c'est bien, mais il y a un autre complément. Il y a un complément. Par contre, lorsque Joseph a fini d'interpréter le songe de Pharaon, Pharaon n'était pas informé que Joseph avait d'autres compétences. Joseph, Pharaon dit, qu'est-ce qu'on va faire? Joseph s'arrête et il dit, pendant les 7 années de vache grasse, les 7 années d'abondance, mettez à l'écart 1/5 de toutes les richesses. Mes amis, en combien de temps a-t-il pu calculer cela? Il a fait un plan de redressement économique d'une nation. Et là, interprétez les songes là. Ça, c'est don spirituel, les dons que vous avez là. Mon frère, tu pries la langue. Ribo, shaba, baba, baba, baba. Un frère là. Ainsi dit Dieu. Ainsi dit Dieu. Ça, c'est interpréter les songes. Après ça, on rentre en l'économie, dans l'économie du pays maintenant. Concrètement, on fait quoi? C'est là maintenant, il y a des faux prophètes menteurs qui viennent. Je vois. Je vois par l'esprit qu'il faut investir dans telle affaire. Et puis, il y a des hommes de Dieu, des chrétiens qui croient que vous allez partir chez des pasteurs comme des charlatans. Qui vont te dire, je sens. Mon frère, tu vas perdre tout ton argent. Et puis, quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te gifler pour ajouter là-dessus. Mais quelles sont ces histoires-là? Je n'ai pas dit que Dieu ne fait pas une révélation dans la connaissance. Mais Joseph a dit, épargnons 1/5 de toutes les richesses. Il a donné un plan de redressement économique de toute une nation. Il a fait le planning. Et lorsqu'il a fini de parler, Pharaon, je rappelle qu'à cette époque, l'Égypte est la nation la plus puissante au monde. Ça veut dire qu'ils ont les plus grands économistes. Les plus compétents. Ils ont les plus grandes universités. Quand Joseph a fini de parler de la sorte, Pharaon demande, trouverions-nous en Égypte quelqu'un comme celui-ci? Eux tous sont là. C'est vrai qu'on est intelligent, mais le petit, là, c'est dangereux. Il n'y a personne. On dit petit. Il avait 30 ans. Tu es en même temps, tu es premier ministre. Tous les pouvoirs te sont donnés. L'Égypte, qui était une nation qui adorait des idoles, qui adorait le diable, a pris toute sa fortune. Et elle a mis à la disposition d'un fils du royaume. Voilà, transfert de la richesse. Et le fils du royaume, il est assis là. Et la Bible dit, Genèse chapitre 41, il est dit, de toutes les nations, on venait en Égypte pour prendre de la nourriture chez Joseph. Qu'est-ce qui a fait la différence? Cette connaissance. Non seulement les dons spirituels, ce qu'on apprend à l'église ici, mais la compréhension de l'économie. Et le don spirituel plus la connaissance en économie, en gestion des nations, les deux combinés a fait que Joseph a une révélation que supérieure. Car la Bible dit de Joseph et de Daniel, ces personnes-là, que ces hommes avaient un esprit supérieur. Ça veut dire quoi? Non seulement ils ont appris ce que vous les infidèles, vous avez comme connaissance, ils ont fini avec ça. Et puis là-dessus, maintenant, ils ont la révélation. Alors, voilà le mystère. Dieu dit ceci, Dieu ne va pas te donner la vraie richesse. Le transfert des richesses, si toi, avant, tu n'as pas appris, c'est ceux qui possèdent les richesses illégitimes. Vous n'avez pas compris. Joseph, où il a appris l'économie? Lorsqu'il était serviteur chez Potiphar. Chez son papa, il était berger. Chez Potiphar, il était économe, intendant. C'est là qu'il a appris les rudiments. L'église, et Joseph n'avait pas de salaire chez Potiphar. Mais il travaillait en comprenant, en cherchant le comment du rudiment de l'économie. Pourquoi on doit vendre ceci? Comment on fait les intérêts? Comment on retire ceci? Comment on fait une comptabilité? Comment? Il n'avait pas de salaire. Dieu ouvre nos yeux pour nous faire comprendre ceci. Quand Dieu vous donne l'opportunité de travailler dans des structures, de travailler dans des entreprises, s'il vous plaît, ne soyez pas fidèle au salaire. Ne regardez pas seulement le salaire. Dieu ne vous envoie pas là-bas. C'est simplement pour que tu aies un salaire pour payer ton loyer du mois. Dieu t'a amené pour apprendre, pour changer l'humanité. Ça veut dire quoi? Quand tu es là-bas, en plus de la petite compta que tu fais, demande aux gens comment, quels sont les principes pour faire la gestion du personnel. Est-ce que tu sais comment faire une gestion du personnel? On ne comprend même pas ces choses-là. Beaucoup de frères, ils sont là. Oui, j'ai monté une entreprise. Mais les règles même minimales même de l'économie et de la compta, là, ce n'est même pas en toi. Tu dis, Dieu pourvoira par la prière. Tu sais même pas faire la différence entre bénéfice et puis tu prends le bénéfice, tu consommes. Quel miracle va venir là? Si tu n'as pas été fidèle dans les richesses injustes, qui te donnera les véritables? Alléluia. Vous devez apprendre. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fini avec les richesses injustes. Il y a encore beaucoup d'autres aspects. Mais la fidélité parle de savoir s'engager, de savoir apprendre, comprendre le comment. Qu'est-ce qu'il dit? La richesse que je vais te donner est une richesse qui vient à la suite d'exercices, d'épreuves. Il dit, je vais ouvrir tes yeux. Mes amis, travaillez, ayez des salaires, soyez bénis. Mais apprenez, formez-vous. Salomon, il n'a pas eu l'argent au début, il a eu d'abord la sagesse. Moi, je pensais que la sagesse était venue par un don. Un matin, il s'est réveillé, il était sage. Lisez attentivement Proverbe, Ecclésiaste. Vous allez voir que Dieu lui a donné un esprit disposé. Et après quoi, Salomon a beaucoup lu. Il a beaucoup appris. Il s'est formé. Seulement, il était prédisposé à apprendre 100 fois plus vite que tout le monde. En vous, vous avez la capacité d'apprendre 1000 fois plus vite que tout le monde. Si seulement vous êtes fidèle, ça veut dire vous faites l'effort d'apprendre au-delà de votre salaire comment les choses fonctionnent. Si vous n'êtes pas fidèle, vous n'obtiendrez pas la véritable. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur divine soit avec vous, au nom de Jésus. Alléluia. On va parler à Dieu. Nous n'avons pas fini sur ce volet. Voilà, faut pas qu'une personne aille travailler avec des gens bizarres qui disent, le pasteur a dit d'être fidèle. Donc, mon patron, si tu vois en boîte de nuit, si tu vas faire n'importe quoi en boîte de nuit, moi aussi je suis fidèle, je m'en vais apprendre comment ça fonctionne. Non. N'oublie pas d'abord que tu es fidèle à tes valeurs. Quelle est ta valeur? Je me suis engagé avec Christ. Tu as fini ça, fidèle dans les moindres choses. La première chose, j'ai engagé ma parole avec le Seigneur. Ça fait qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Amen. On n'a pas dit d'être fidèle aux injustes. C'est d'apprendre comment fonctionnent les richesses. Je vais encore montrer plein d'autres versets qui démontrent ce que la Bible appelle les richesses injustes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parlons au Seigneur rapidement. Car il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Mais Dieu ouvre nos yeux pour commencer à comprendre, à saisir. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci parce que tu formes notre esprit. Merci parce que tu crées en nous un esprit d'humilité, un esprit de formation, un esprit d'apprentissage, un esprit de compréhension des choses, éternel Dieu des cieux. Donne-nous d'aller de l'avant. Souvent, parce que nous disons, c'est vrai, supérieur, mais nous refusons d'aller travailler pour les Potiphar. Parce que nous disons, ils sont injustes, ils sont ceci, ils sont cela. Tu ne veux pas que nous ayons l'attitude de Madame Potiphar, mais tu veux que nous comprenions comment les choses sont gérées, comment les choses sont faites. Ouvre nos yeux, Seigneur Dieu, pour que nous puissions apprendre le comment des choses. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Béni sois-tu pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, tu vas acclamer très fort l'Éternel ton Dieu.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.